Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Et bien figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Et bien devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100€ sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100€ sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ici, on vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On parle entraînement, performance, blessures, nutrition évidemment, santé du sportif et à chaque fois avec des invités exceptionnels qui m'accompagnent pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal. Je reçois pour ce nouvel épisode Nicolas Gravis qui est un vieil ami. Si on peut dire, puisqu'on se connaît depuis qu'on est gamin. Pour l'anecdote, on a pratiqué le tennis ensemble, à l'époque du collège, du lycée. Je me souviens qu'à cette époque, déjà à ce moment, Nicolas, il était déjà très porté sur le sport, sur la performance, la récupération, mais également la santé. Nicolas Gravis est avant tout un passionné de sport, d'entraînement, de préparation physique, mais également d'haltérophilie. Et lorsque j'ai pensé à faire un épisode du podcast complet sur cette pratique qu'est l'haltérophilie, qui m'est un petit peu inconnu de mon côté, eh bien évidemment que j'ai pensé à l'inviter. Alors je l'ai déjà vu en cabinet, en ostéopathie, j'aime bien travailler sur les morphologies, j'aime bien analyser les morphologies, et je peux vous garantir qu'il a une morphologie qui est parfaitement adaptée à la pratique de l'haltérophilie justement. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de l'épisode. Aujourd'hui, Nicolas Gravis, il est préparateur physique, il a un doctorat en sciences du sport, il s'intéresse à tout ce qui concerne l'amélioration des performances, la prévention des blessures, les méthodes d'entraînement, d'adaptation, de récupération. Il a un master en nutrition aussi, donc vous voyez qu'il a quand même un parcours extrêmement complet et très poussé également. Il a aussi réalisé une thèse sur la DHEA et son rôle contre l'anti-vieillissement et l'amélioration des performances de l'athlète. Donc vous voyez que c'est un profit qui rejoint parfaitement mon objectif que je souhaite développer à travers ce podcast, à savoir la pratique sportive, l'amélioration de ses entraînements, la compréhension du corps, mais aussi la prévention des blessures lorsqu'elles ne sont pas encore là et leur traitement, leur guérison lorsque la blessure se manifeste. À travers toute cette conversation, on a pu discuter d'exactement en quoi consiste l'haltérophilie, pourquoi les haltérophiles ne sont pas aussi musclés que les bodybuilders. Vous allez voir, est-ce qu'il y a réellement un lien entre le volume musculaire, la masse musculaire et la force? Comment on s'entraîne concrètement pour devenir plus fort de manière générale? On va voir l'intérêt de l'haltérophilie dans tout ce qui concerne la préparation physique d'un athlète, la meilleure morphologie pour être bon dans ce sport. Quels sont les différents types de blessures que l'on peut retrouver en haltérophilie? Le lien très étroit qu'il existe entre la santé, la posture, la longévité également et l'haltérophilie. Comment cette pratique peut réellement vous aider à lutter contre le vieillissement, en tout cas à mieux vieillir. Et puis en fin de podcast, on va revenir sur sa thèse qui concerne l'ADHEA, donc qui est un produit dopant, je le rappelle. Quelles sont les conclusions qu'il en a tirées concernant la production de testostérone, l'amélioration des performances sportives? Donc de nombreux sujets extrêmement instructifs. C'était passionnant, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode, j'espère que vous allez en prendre également à l'écouter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la lettre biomécanique, vous pouvez le faire directement en cliquant sur le lien qui est en description, qui s'appelle biomecaniquepodcast.com/lettre, qui correspond à la lettre biomécanique. Vous rentrez votre mail, vous êtes inscrit à la lettre, ça ne vous coûte pas un rond, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Moi, ça me permet de vous contacter lorsque j'ai des nouveaux épisodes qui sortent, et également lorsque j'ai envie d'écrire quelques informations un petit peu plus exclusives, un petit peu plus personnelles. C'est la meilleure façon pour moi de vous tenir au courant de toutes les nouveautés concernant le podcast ou toute autre information. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Nicolas Gravis. Et quant à nous, on se retrouve évidemment à la fin de l'épisode. Nico, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas ?
Très bien, merci Jérôme de ton invitation.
Ben, je t'en prie, ça me fait plaisir. On va essayer de démarrer un petit peu fort. Une des questions qui me brûlait le plus les lèvres, on va dire, je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs là, c'est, tu sais, en bodybuilding, on parle souvent qu'on entraîne des fibres musculaires, on utilise une charge en fait, pas au fin d'améliorer sa force, de gagner de la force, mais plutôt de faire de l'hypertrophie sur le muscle. Et souvent, ouais. Pour appuyer un peu cette théorie, c'est dire là, on dit que les haltérophiles sont des personnes qui ont énormément de force, qui soulèvent une charge conséquente, mais qui ne sont pas forcément musclées en proportion. Et j'aimerais bien avoir, toi qui es spécialiste de l'haltéro, par exemple, et pas que, on y reviendra, j'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus pour démarrer.
Ouais, donc l'idée déjà en haltérophilie, c'est de savoir que c'est un sport à catégorie de poids, et que en fait l'objectif c'est de lever dans sa catégorie la charge la plus lourde sur deux mouvements, à savoir l'arraché, l'épaule et jeté. Donc, il n'y a pas forcément intérêt à avoir une grosse masse musculaire, un gros volume musculaire, mais plutôt avoir une masse musculaire qui est dite fonctionnelle. C'est-à-dire que chaque fibre musculaire va nous servir pour déployer le mouvement et avoir un haut niveau de force. Donc, effectivement, on n'a pas forcément des hauts niveaux de volume musculaire. Et la logique de la discipline est complètement différente de celle du bodybuilding. Et nous, effectivement, on s'entraîne plus sur le développement de la force, de l'explosivité, de la mobilité sur des aspects techniques, ce qui est pas forcément le cas pour des bodybuilders.
Alors, tu as parlé de muscles fonctionnels. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça serait du muscle non fonctionnel ?
Alors, c'est pas forcément le muscle, c'est ce à quoi servent la musculature, si tu veux. Nous, l'idée, c'est d'avoir des mouvements pluriarticulaires qui pourraient se rapprocher de choses que tu fais dans des disciplines sportives telles que sauter ou des mouvements de la vie quotidienne, tout simplement te lever d'une chaise, tu vois, c'est des choses qui sont fonctionnelles par rapport à ce que tu vas faire dans ta discipline ou dans la vie quotidienne, tu vois. C'est plus par rapport à ça, tu vois, quand tu fais des mouvements mono-articulaires pour t'entraîner sur du bodybuilding, pour développer de la masse, c'est pas des choses qui sont forcément fonctionnelles, tu vois.
Ok, d'accord, c'est par rapport à une adaptation sur un transfert sur une autre chose en fait.
Par rapport à la vie réelle, c'est ça, ouais, tout à fait.
Alors, il y a une corrélation entre le muscle et la force, ou pas, et à quel degré dans ce cas-là? C'est juste pour revenir un peu sur certains coachs, par exemple, qui diraient que tu peux t'entraîner avec... l'extrême, ça serait t'entraîner presque le biceps avec un haltère de 2 kilos. Dire que rien qu'avec la force de ta pensée, ou des choses comme ça, ou en faisant du volume, en fait, tu vas grossir. Et ce qui voudrait dire que tu peux faire du muscle, tu peux développer un physique volumineux, en fait, sans finalement développer sa force. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait aucune corrélation.
La corrélation entre force et masse musculaire, elle n'est pas parfaite dans la mesure où tu as un paramètre supplémentaire à ajouter qui est celui de l'activation nerveuse. Tu vois, tu peux avoir beaucoup de masse musculaire, mais pas être très, très bien activé en termes nerveux. Et, d'où le fait que la corrélation elle soit pas égale à 1, tu vois, entre la force et la masse musculaire, quoi.
Mais il y a quand même un lien.
Ouais, il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Tu prends des gens qui ont un gros gabarit d'entrée, ils vont avoir... indépendamment de l'activation, plus de chances d'avoir de la force que des personnes qui ont un petit gabarit. Mais voilà, après, tu vois, tu as des gens qui sont plutôt fluets, mais qui sont très bien activés nerveusement, qui sont capables de bien synchroniser leurs unités motrices, qui ont une bonne coordination et sur des mouvements plus articulaires qui vont être beaucoup plus performants que des gens qui ont un gros volume musculaire, mais qui ne sont pas bien coordonnés, qui n'ont pas une bonne activation, quoi.
Ok, on reviendra un petit peu sur ça, les différents paramètres là, ou les critères pour augmenter sa force. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière dans ton parcours. Déjà, une question que j'aime beaucoup poser aux invités en premier lieu, là j'ai voulu faire une petite entorse à la règle, c'est: est-ce que tu te souviens, toi, de ta première expérience dans une salle de sport, et disons plus spécifiquement ta première expérience en haltérophilie, comment elle s'est passée?
Alors, dans les salles de sport, en fait, j'ai commencé assez jeune avec mon frère. Tu sais, quand on était adolescent, vers la fin de l'adolescence, on a commencé un petit peu à y aller. À la base, c'était pour améliorer nos performances en foot. Mais je pense qu'avec le recul que j'ai, avec mes peut-être 15 ans de formation dans le domaine du sport et expérience, je pense qu'on n'était pas très bien cadré. Ce qu'on faisait, c'était loin d'être optimisé. On n'avait pas trop toutes les billes pour bien orienter notre plan d'entraînement, mais voilà, c'était plus de la découverte au final, et on était vite rentré dans une logique d'améliorer nos performances, tu vois, avec un peu se tirer la bourre. Donc c'était sympa, mais on n'était pas forcément super bien cadré et suffisamment compétent. Enfin, on avait des compétences d'adolescent en musculation, tu vois, tout simplement. Voilà, après, par rapport à l'haltérophilie, donc faut savoir qu'en France, c'est pas non plus un sport qui est très très développé. J'ai commencé à Clermont-Ferrand, j'ai un peu commencé tout seul, on va dire. J'étais pas super bien encadré. Pourquoi j'ai commencé? Parce que, en fait, dans mes formations de préparation physique, j'ai très vite compris qu'il y avait un intérêt de travailler en préparation physique avec cette discipline. Donc à la base, moi, je voulais me rendre plus compétent dans la maîtrise de cette discipline, et au fur et à mesure, je me suis un petit peu pris au jeu, tu vois.
T'avais quel âge à ce moment-là?
Quand j'ai commencé l'haltéro, je crois que je devais avoir 21 ou 22 ans. Donc un petit peu tard, tu vois, pour espérer avoir des grosses performances. Mais l'idée pour moi, c'était surtout d'avoir un outil et des compétences pour la préparation physique. Et bon, je me suis pris au jeu au fur et à mesure, et je me suis mis à faire des compétitions, etc., et avoir un niveau correct, on va dire, dans la discipline, quoi.
Et tu te souviens de ta première séance?
Ouais, ma première séance d'haltéro, j'avais fait 45 minutes, j'étais complètement rincé nerveusement. Le coach, il me dit: bon, mais maintenant, on va faire du renforcement musculaire. Je lui dis: là, j'en peux plus, c'est pas possible, quoi. Et c'était la première fois que j'avais une stimulation nerveuse aussi importante. Et honnêtement, j'ai de suite compris qu'en termes nerveux, c'était pas du tout la même chose que de la muscu classique telle que j'avais pu la vivre depuis des années, tu vois.
Ok. C'est intéressant, on reviendra sur l'aspect santé que présente l'haltérophilie, en fait, les bienfaits, parce que ça fait partie des questions que j'ai. Pour revenir, donc, toi, tu étais déjà dans un cursus de préparateur physique lorsque tu as commencé et que tu t'intéressais à l'haltérophilie. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton cursus. Il me semble que tu as fait STAPS. C'était quoi ton objectif dès le départ quand tu es dans un STAPS?
Alors, à la base, moi, je voulais faire préparateur physique dès le lycée, en fait. C'est pour ça que j'ai fait une option EPS, ce qui a facilité ensuite mon intégration en STAPS et mes performances en STAPS. Après, je me suis orienté vers des DU, préparation physique, optimisation de la performance par l'analyse vidéo aussi, par la nutrition. J'ai fait un master nutrition également, et j'ai fait un master physio de l'exercice avant de faire ma thèse. Parce que donc dans l'idée à la base, j'étais vraiment très très orienté sur la préparation physique. Après, je me suis dit qu'en fait, il y avait énormément de monde sur le marché et que l'aspect scientifique m'intéressait un petit peu également pour l'optimisation des performances. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans un master recherche en physio de l'exercice. Et ça m'a permis de voir un petit peu l'entraînement autrement. Et d'avoir des compétences, je pense que les préparateurs physiques avec un cursus classique, c'est-à-dire master entraînement classique, n'ont pas forcément.
Est-ce que toi, tu voulais t'occuper d'athlète dans un sport ou une activité particulière?
Ouais, voilà. À la base, moi, je suis footeux, j'ai fait du foot depuis que je suis tout petit, j'adore le foot, je regarde le foot quasiment tous les jours. Le foot, c'est ce qui m'intéresse depuis le début et qui m'intéresse encore.
Alors, je renvoie les auditeurs à écouter le podcast numéro 10, qui à l'heure actuelle, où on enregistre celui-là, il n'est pas encore sorti, mais où on parle beaucoup de la formation des coachs, la formation des préparateurs physiques entre STAPS, entre BPJEPS. C'est très intéressant, il y a beaucoup de contenu par rapport à tout ça. Donc toi, là, on voit justement que tu as fait une formation STAPS, que tu as quand même pas mal de... T'as un cursus assez complet sur la préparation physique. Et c'est au cours de ces études, en fait, que... Tu t'es rendu compte que l'haltérophilie, il fallait que tu la pratiques ou il fallait que tu t'y intéresses parce que ça avait un impact important sur peut-être la préparation des athlètes dans un sport. On ne va pas parler santé pour l'instant, on y reviendra plus tard, mais juste dans l'amélioration des performances et dans la préparation d'un athlète, c'est quoi le rôle de l'haltérophilie dans ce domaine-là?
Alors déjà, pour répondre à ta première question, ouais, je pense que pour vraiment comprendre les bénéfices, je pense qu'il faut la pratiquer un petit peu. Honnêtement, moi, sur les 3-4 premiers mois, j'ai commencé à ressentir les bénéfices déjà en termes de mobilité. Parce que bon, j'étais comme beaucoup de footeux, plutôt raide, que ce soit sur les membres inférieurs ou le haut du corps. Donc, gros gain en termes de mobilité. Gros gain aussi en termes de stabilité. Gros gain en termes d'explosivité. Et ça, je me souviens quand j'ai repris le foot, parce que j'avais arrêté un petit peu le foot entre temps, pour vraiment me consacrer qu'à ça. Et j'avais arrêté le foot, je m'entraînais plus au foot et j'ai repris le foot. Et j'étais un autre joueur de foot, tu vois. J'étais largement meilleur. J'avais des meilleurs appuis, j'avais plus d'explosivité, je changeais plus vite de direction. J'étais beaucoup plus stable. J'avais même amélioré ma frappe du pied gauche parce que tu vois, j'étais devenu plus stable. De mon pied droit. Donc, tu vois, des bénéfices comme ça que j'attendais pas parce que j'avais pas au final les connaissances des bienfaits de la discipline. Il n'y avait pas beaucoup de recherches, pas tous les réseaux sociaux qui permettaient de mettre en lumière tous les bénéfices de la discipline. Donc, ouais, moi, ça, le fait de pratiquer, ça m'a permis de me dire, ouais, putain, il y a un outil qui est quand même hyper puissant en termes de développement de ses qualités physiques. Ouais, après, je pense qu'il n'y a pas que les qualités physiques que ça développe, il y a aussi tous les aspects psychologiques, à commencer par la concentration, par le dépassement de soi aussi, parce que quand t'es seul face à ta barre, que la barre est lourde, et à un moment donné, si tu la lèves pas, tu ne fais pas le mouvement tout simplement. Donc voilà, il faut être capable d'être bien concentré et des fois dépasser un peu une peur, tu vois. C'est des choses qui sont amenées par l'haltéro aussi.
Et alors, s'il y en a qui écoutent ce podcast-là et qui connaissent pas bien l'haltérophilie, on va essayer de revenir un peu à la base. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est que l'haltérophilie et c'est quoi les deux mouvements de base, en fait? Et peut-être comment, depuis quand ça existe?
Je t'avoue, je suis pas très très au point sur les aspects historiques.
C'est pas grave, c'est juste pour...
Quand ça existe, je ne serais pas trop te dire, mais c'est une discipline qui est une discipline olympique, donc qui est assez bien ancrée dans le milieu olympique, même si bon, tu as peut-être entendu parler des affaires de dopage qui l'ont mis un petit peu en sursis par rapport à son maintien ou non dans le programme des Jeux olympiques. Donc là, en l'occurrence, c'est encore maintenu. Donc après, c'est quoi l'haltérophilie? Donc l'objectif, c'est de lever la charge la plus lourde possible. Donc de mettre la barre au-dessus de la tête avec deux mouvements différents. Donc le premier mouvement, c'est l'arraché où la barre elle part du sol et en un seul temps, tu dois la mettre au-dessus de la tête. Après, bon, il y a tout un tas de critères techniques à maîtriser pour la mettre déjà premièrement de manière sécurisante au-dessus de la tête et de manière réglementaire au-dessus de la tête. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le temps pour développer tout ça. Et le deuxième mouvement, c'est l'épaulé jeté, donc qui se passe en deux temps, où le premier temps, c'est décoller la barre du sol et l'amener jusqu'au clavicule, donc avec quelques variantes techniques également. Et deuxième partie du mouvement, c'est le jeté, voilà, qui peut se faire en fente, en flexion ou debout, selon les styles et les qualités des athlètes.
Et toi, tes records personnels par rapport à ça ?
Alors, mon record personnel à l'arraché, c'était 95 quand j'étais en moins de 69 kilos et 120 à l'épaulé jeté, et j'ai déjà épaulé 125. Donc, j'ai fait des performances de niveau fédéral. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent le foot, c'est un peu l'équivalent de la Ligue 2 quand j'étais à moins de 62 kilos.
Aujourd'hui, tu continues à pratiquer l'haltérophilie, et est-ce que tu continues aussi à l'intégrer dans ton métier, dans tes préparations, toi, pour des athlètes ?
Ouais. Moi, je fais plus de compétition par manque de temps. Malheureusement, j'ai plus du tout le temps de faire des compétitions, mais je le fais justement plutôt pour l'aspect santé, pour conserver ma mobilité, pour conserver un petit peu de force, pour conserver un petit peu d'explosivité. Deuxième partie de la question, oui, bien évidemment, j'en intègre dans la programmation de mes athlètes. Donc, j'interviens sur deux structures en préparation physique. La première, c'est le club de football de l'Eche Cap-Ferret. Donc, on a un groupe d'athlètes qui prétend accéder à du haut niveau en football, et on intègre dans les séances de musculation deux fois par semaine de l'haltérophilie avec des adaptations pour la rendre un petit peu plus spécifique à la pratique du football. Et deuxième structure où j'interviens, c'est le Pôle Espoir Football de Bordeaux, donc qui est une entité de la Fédération Française de Football. Et on en fait deux fois par semaine également. Voilà. Chez des gamins qui ont 13-14 ans.
Ok, et ça fait combien de temps maintenant que tu es sorti des études ?
Alors j'ai obtenu ma thèse le 17 décembre 2018, donc ça fait un an, sachant que quand tu fais ta thèse, en fait, tu es déjà dans le milieu du travail, tu es rémunéré pour faire ta thèse, tu es salarié. Et j'étais également dans un club d'haltéro à ce moment-là où j'avais un peu le rôle de directeur de la performance, on va dire.
Bon, alors si je comprends, pour essayer de résumer un petit peu ce qu'est l'haltérophilie et comment être performant, c'est-à-dire qu'il faut être le plus fort possible en pesant le moins lourd possible.
Ouais, c'est ça.
Voilà, jusque-là, c'est ça.
Pas bien résumé, ouais.
L'objectif, c'est absolument pas prendre de masse musculaire, mais c'est de prendre de plus de force.
Ça dépend en fait, parce que des fois, tu vas pouvoir te retrouver en milieu de catégorie, tu vois. Et donc, tu imagines, je sais pas, tu prends par exemple la catégorie chez les hommes des 73 kilos. Si tu pèses 69 kilos, tu vois, par exemple, tu vas te retrouver dans le bas de la catégorie, alors que tu vas concourir avec des gens qui vont être à pile à 73. Et donc, en termes de masse musculaire, tu vas avoir un désavantage. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, ouais, la masse musculaire, ça, c'est quand même un facteur qui impacte la force. Donc, des fois, bah, quand tu es sur le bas de la catégorie, soit tu fais le choix de perdre du poids, ce qui peut être parfois pas le bon business parce que tu es déjà très sec et tu n'as pas grand-chose à perdre, ou tu peux faire le choix de faire de la prise de masse musculaire pour remonter dans le haut de la catégorie.
Ok, alors avant de transitionner sur la question qui allait suivre, juste personnellement, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir musclé sans être fort ? Alors, je parle de... On va prendre un athlète naturel, hein, on va prendre un sportif qui est naturel, qui prend pas de produits dopants, qui est... Parce que bon, ça c'est encore sujet un petit peu à débat, tu vois, l'espèce d'entraînement sans force et qui fait développer le muscle au maximum grâce aux hormones qu'on s'injecte, enfin bref. Mais un athlète, un sportif naturel, est-ce qu'il peut développer son muscle ? Est-ce qu'il peut se focaliser uniquement sur son muscle et pas sa force, en fait ? Ou alors il y a forcément une corrélation qui va se faire, il va être obligé à un moment donné d'aller gagner des barres de plus en plus lourdes pour prendre du muscle ou pas ?
Le gain de masse musculaire va te faire gagner de la force, tu vois. Et je pense pas que ça soit un objectif de gagner de la masse musculaire sans gagner de la force, tu vois. Je pense que c'est mieux de gagner les deux en même temps, dans la mesure où quand tu vas pouvoir lever des barres plus lourdes, ça va être un stress supplémentaire pour le muscle. Donc ça va être quelque chose qui va te permettre d'avoir des adaptations pour le gain de masse musculaire également, tu vois.
Mais tu vois, par exemple, il y en a qui diraient qu'il faut diminuer ses charges, il faut avoir plus d'intensité, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 100 kilos sur ton coucher, tu vas en prendre un peu moins, enfin tu vas prendre un peu moins, tu vas prendre 70% de cette charge-là, donc 70 ouais. kilos évidemment, tu vas faire plus de répétitions, plus de volume, tu vas chercher, je vais un peu dans le cliché, mais la contraction volontaire, le super lent, enfin toutes ces techniques qu'on voit un petit peu fleurir. Et en fait, j'ai l'impression que ça va un peu nous faire croire que la charge, on s'en fout complètement, on pourrait presque prendre 20 kilos et faire énormément de volume et d'intensité pour finalement prendre plus de muscles qu'avec 100 kilos, quoi.
Ouais, dans les aspects qui vont influencer la prise de masse musculaire, t'as l'aspect métabolique, tu vois, donc t'as tout un tas de méthodes qui vont générer de l'acidité, qui vont avoir un impact sur le volume musculaire. Et le deuxième paramètre, après, c'est le stress mécanique, tu vois. Donc, toutes les méthodes excentriques, là, ont leur sens. Toutes les méthodes où tu vas passer du temps sous tension, ben, ont leur sens. Avec tout l'aspect métabolique que ça induit également. Le fait de travailler avec des charges lourdes, avec des tempos ralentis, ben ça a son sens aussi, tu vois. L'idée c'est de créer un stress aux muscles pour qu'ils s'adaptent. Après, effectivement, tu as des méthodes qui sont plus propices à générer du volume musculaire, d'autres qui sont plus propices à générer un gain de force sans masse musculaire. Après, bon, tu le sais comme moi, l'autre aspect important, c'est bien gérer l'alimentation pour favoriser l'adaptation en masse musculaire.
Oui, bien sûr, non, mais j'ai plus ou moins une idée à chaque fois des réponses, en tout cas des grandes lignes. Mais j'aime bien avoir confirmation, j'aime bien avoir des avis un petit peu différents comme ça. Et puis quelqu'un qui pratique un autre sport que le bodybuilding là uniquement, tu vois, pour ouais. ses réponses. Donc c'est intéressant et ça me fait rebondir alors sur comment on augmente sa force finalement, sans s'occuper du muscle ou quoi que ce soit. C'est quoi les différents critères, les paramètres qu'on peut jouer pour devenir de plus en plus fort et soulever plus lourd?
Alors je pense que déjà, le premier paramètre qu'on oublie, c'est l'aspect technique. Tu vois, être capable de bien orienter sa force, ben, c'est quelque chose de très 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 important. Tu prends par exemple augmenter ta force sur un mouvement analytique, par exemple une machine guidée, c'est hyper simple, tu vois, parce que la trajectoire de barre, elle est générée par la poulie, donc il n'y a aucun problème sur l'aspect technique. Enfin, il y a très peu de problèmes sur l'aspect technique. Tu prends le cas d'un squat. Ben, quand la barre elle est pas guidée, c'est toi qui dois générer la stabilité. Et t'as tout un tas de paramètres techniques, à commencer par la pose des appuis, par l'appréhension de la barre, qui sont importantes pour que tu puisses pousser bien parfaitement dans la verticalité, tu vois. Donc ouais, le premier truc que moi je conseille aux athlètes qui veulent augmenter leur performance, tu vois, pas, ils parlent de force sur le mouvement, mais en fait c'est la performance sur le mouvement. C'est déjà bien gérer les aspects techniques pour générer une trajectoire de barre par l'orientation des forces. Dans la bonne direction, tu vois. Donc ça, premier paramètre, l'aspect technique. Après, l'idée, c'est d'avoir des charges qui sont suffisamment stimulantes pour choquer ton système nerveux. Donc ouais, là, on va vers des charges qui sont lourdes et on peut même toucher, selon le niveau des athlètes, à des méthodes qui sont encore plus choquantes, à savoir du travail excentrique, tu vois, avec des charges qui sont dites supra-maximales, si on prend comme base maximale une répétition maximale sur le mouvement, tu vois.
Et physiologiquement, comment ça se passe quand on gagne de la force? Parce que quand on devient de plus en plus musclé, on s'imagine que c'est les fibres, elles sont plus nombreuses ou plus grosses. Mais au niveau de la force, qu'est-ce qui se passe entre le système nerveux et le muscle?
Bah, t'as une amélioration de la conduction avec une amélioration du recrutement des unités motrices. T'as une meilleure inhibition du muscle antagoniste qui, du coup, va moins freiner le mouvement. Donc, ouais, c'est principalement des adaptations nerveuses. Si on parle purement des aspects force, voilà, t'as l'adaptation morphologique, mais ouais, t'as surtout l'aspect nerveux. Donc, ouais, c'est amélioration du recrutement des unités motrices, amélioration de la coordination intra-intermusculaire avec diminution de l'inhibition de l'antagoniste. Ouais, c'est des choses comme ça.
Et c'est quoi la coordination intra et intermusculaire? J'ai une idée, mais j'aimerais qu'on le définisse un peu, parce que je pense que ça peut intéresser du monde qui ne sait pas exactement à quoi ça correspond.
Ben, si tu veux, c'est quand tu réalises un mouvement, tu vois, les muscles qui sont pas tous activés en même temps, au même moment, tu vois, t'as une suite logique qui va permettre le bon déroulement du mouvement. Donc en fait, tu vas devenir beaucoup plus compétent dans activer le bon muscle au bon moment, tu vois. Donc c'est ça, c'est la coordination intermusculaire. Intramusculaire, c'est quand tu prends un même muscle, c'est les unités motrices de ce même muscle qui vont s'activer de manière plus synchrone.
Ok, donc si je comprends bien, pour être de plus en plus fort en haltéro et être de plus en plus fort tout court, la technique en numéro 1, c'est ce qui permettra d'utiliser le moins d'énergie pour faire ce mouvement-là et d'avoir une trajectoire qui sera la plus efficiente possible.
Exactement, et la moins dangereuse, on va dire.
Et la moins dangereuse, c'est ça. Et ensuite, recruter les muscles dans le bon ordre. Et à l'intérieur du muscle, toutes les fibres se contractent en même temps pour...
Pour faire simple, on va dire ça comme ça.
Ouais, on va essayer de garder simple, mais évidemment que c'est bien plus compliqué. Mais ok, je trouve ça intéressant. Tu as parlé un petit peu de morphologie. Est-ce que c'est un paramètre pour toi de qualité ou en tout cas de réussite pour l'haltérophilie? Tu vois, les différentes morphologies, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse.
Ouais, au début, quand j'ai commencé, moi qui ne suis pas très grand, qui ai plutôt des membres courts et un buste long, on m'avait dit ouais, c'est un avantage d'avoir ce type de morphologie-là. Après, honnêtement, j'ai vu des athlètes avec diverses morphologies être performants en haltérophilie. Et en fait, tu arrives, quelle que soit ta morphologie, à t'adapter aux contraintes de la discipline. Donc, ouais, je pense que ça peut être biomécaniquement un avantage d'avoir un morphotype plutôt avec des segments courts. Mais voilà, ça n'empêche pas de pratiquer si t'es long sans problème, quoi.
Et tu penses qu'à haut niveau, quelqu'un qui aurait une morphologie particulièrement adéquate pour l'haltérophilie pourrait se faire attraper par quelqu'un qui n'a pas une morphologie adéquate, mais qui travaillerait fort? Ou est-ce que la nature l'emportera toujours si tu regardes un peu parmi les champions?
Je pense que la performance, elle est tellement multifactorielle que ouais, un mec qui est bien structuré dans son entraînement, qui est bien structuré dans le sommeil, dans l'alimentation, voilà, qui est capable de bien adapter sa technique à son physique, il y aura pas de souci. Après voilà, faut une expertise particulière pour ça, quoi, c'est clair.
Et les chaussures d'haltéro?
Ouais.
grand débat, je sais pas si c'est un grand débat, mais grand questionnement, est-ce que ça a un impact si important que ce qu'on veut lui donner en fait?
Alors, il faut savoir ce que ça amène. Premièrement, ça amène de la stabilité. Ça, c'est important, et bon, tu es d'accord avec moi que quand tu as un mouvement qui génère, lui, de l'instabilité, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous aide à générer de la stabilité. Donc, en l'occurrence, les chaussures haltéro, si tu les compares à des chaussures de salle classique, elles vont être un petit peu plus larges. Donc, tu vas augmenter ton polygone de sustentation. Ça va favoriser la stabilité. Deuxième chose, elles ont une semelle qui est dure. Donc, pour la transmission d'effort, c'est plus favorable. Ensuite, elles ont une petite talonnette, plus ou moins surélevé selon les modèles, ce qui va favoriser la descente en flexion. Et quand tu veux réaliser des hautes performances en haltérophilie, ben t'es obligé de descendre très bas sous la barre pour limiter, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas la monter plus haut que ça, la barre, donc il va falloir que ça soit toi qui passe dessous. Et donc avoir un bon niveau de mobilité et en plus quelque chose qui t'aide à descendre très bas, à savoir les talonnettes, ben ça va favoriser la performance. Donc ouais, ça peut être quelque chose de bien. Après, moi, tu vois, chez les athlètes qui font pas de l'haltéro, je les recommande pas forcément. Tu vois, j'aime bien qu'ils travaillent en chaussures de futsal ou en chaussures de salle classique, justement pour leur permettre de développer de la mobilité au niveau de la cheville.
Voilà. Est-ce que tu recommanderais à un pratiquant lambda de musculation qui veut avoir un meilleur squat?
Bah, je pense que non. Il faut qu'il règle ses problèmes de mobilité, quoi. Après, tout dépend l'objectif du mec. Est-ce qu'il recherche la performance à court terme ou à long terme? Est-ce qu'il recherche la santé? Ouais, tout dépend de ce qu'il recherche en fait, quoi.
S'il recherche la santé?
Ouais, je pense que ça serait bien de lui recommander d'améliorer sa mobilité de cheville, tu vois, d'abord. Voilà, après, dans un deuxième temps, s'il veut faire de la performance, améliorer sa force, ouais, ça peut être un outil pour se confronter à des charges plus lourdes. Mais je pense que pour l'aspect santé, c'est déjà... La charge n'est pas indispensable, donc d'abord régler le fait qu'il soit capable de descendre en flexion sans les chaussures d'haltéro, quoi.
Ouais, c'est parfois difficile de faire la distinction entre santé et performance, parce que la frontière, c'est pas une frontière, il n'y a pas une charge type où en fait tu passes à la performance, c'est une grosse zone un petit peu floue, quoi.
Ouais, non, des fois on dissocie la santé et la performance. Je pense qu'un athlète en bonne santé va être un athlète performant également, quoi. Donc des fois on a tendance à sauter des étapes et à vouloir aller vite dans la performance au détriment de la santé. Et ça je pense que c'est à court terme, ouais, ben, ouais, on va avoir des effets sur la performance de fonctionner comme ça, mais à long terme, le fait de sauter des étapes, je pense que des fois c'est pas bon pour la performance, je dis bien de long terme, quoi.
Et tu as une chaîne YouTube en fait que tu as ouverte il y a quelques années où tu avais posté quelques exercices, quelques mouvements un petit peu qu'on voyait pas ailleurs à l'époque, ça fait longtemps.
Ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. En préparant un peu le podcast, là, j'ai été faire un tour et j'ai vu quelques mouvements que tu proposais. Il y avait pas mal d'unilatéral, des choses en instabilité pour travailler la stabilité, pour renforcer la proprioception. J'aimerais bien d'abord qu'on parle un tout petit peu de ça, là, que tu nous définisses un peu ce que c'est que la proprioception, si je te prends pas de cours. Et quel est l'avantage en fait de travailler en instabilité, en unilatéral par exemple, pour augmenter finalement ses performances?
Ouais, donc déjà par rapport à ma chaîne, là, j'ai plus trop de temps à m'occuper, donc je pense que les vidéos elles datent de il y a 4, 5, 6 ans. Donc voilà. La proprioception, c'est être capable de la proprioception, c'est l'ensemble des mécanismes internes qui vont nous permettre de, entre autres, faire un mouvement, générer de la stabilité. Tu vois, moi, je rentre pas dans les détails, je pense que pour le public, c'est pas très très important. Ouais, c'est ce qui va nous permettre de bien conduire un mouvement, avoir conscience de notre corps. Et en fait, c'est en lien avec des informations extéroceptives pour permettre de réaliser des mouvements et de se mouvoir dans un espace, tu vois. Voilà. Donc ouais, l'intérêt de travailler en unilatéral, moi j'avais fait ça par rapport à une logique de spécificité par rapport à de nombreux sports, notamment le foot, tu vois. Le fait de travailler sur un pied, c'est des choses qu'on retrouve quand on va courir, quand on va frapper dans un ballon. Donc, pour développer la stabilité avec des mouvements d'haltéros, je trouvais que c'était beaucoup plus spécifique de travailler en unilatéral, tu vois. Et après, ouais, renforcer l'aspect déstabilisation de la barre, justement, c'était pour amener une contrainte supplémentaire pour demander au système neuromusculaire de s'adapter.
Et ça, c'est pas uniquement valable pour l'haltérophilie, c'est valable pour tous les sports? Ou t'as remarqué qu'il y avait des sports qui étaient quand même beaucoup plus réceptifs à ce genre d'entraînement?
Ouais, t'as des sports qui sont plus réceptifs. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé avec des nanas qui faisaient de la danse et elles, dans leur discipline, elles ont beaucoup de contraintes liées à la proprioception, du fait que t'as des rotations, t'as des réceptions, t'as contact avec le partenaire, etc. T'as beaucoup d'informations qui se mélangent. Et ces athlètes-là, elles étaient très, très réceptives à ce genre de travail-là. Et au final, elles se retrouvaient bien pourquoi je fais pas de l'haltéro pur, pourquoi je mets des contraintes en plus, parce que ma discipline me demande d'avoir d'autres contraintes en plus, tu vois. Donc ouais, c'est très, très réceptif. Après, tu vois, dans le foot, j'en fais un petit peu, mais ouais, on est encore beaucoup dans le foot sur pour faire du foot, pour être bon au foot, il faut faire que du foot, tu vois. Et bon, ça change un petit peu progressivement, mais ouais, les joueurs que j'ai là sur le Pôle Espoir et sur l'Eche Cap Ferré, c'est des mecs qui ont compris la logique et qui savent à quoi ça sert, tu vois.
Je vois, je m'ouvre un peu plus à ça aussi. Alors, je suis moins concerné parce que je fais pas de préparation physique, je suis pas, on va dire, sur le terrain avec des athlètes ou quoi que ce soit. Mais effectivement, cette histoire de tu fais du foot pour être bon au foot, c'est quelque chose qui pendant longtemps m'a semblé logique et c'est transposable à partout, tu vois. Je veux dire, si t'as envie d'être bon au piano, il va falloir que tu bouffes du piano. C'est pas en faisant de la guitare que tu vas, enfin, tu peux t'améliorer au piano, mais joue directement du piano, ça t'ira plus vite, tu vois. Et j'ai longtemps eu cette idée de dire, si tu veux être bon à cette activité ou à ce mouvement, il faut le pratiquer absolument. Alors que petit à petit, finalement, tu peux essayer d'améliorer des paramètres qui vont aider à ce mouvement que si tu faisais que ce mouvement.
T'as des compétences qui sont transversales, tu vois. Quand tu joues au foot, t'as besoin de générer de la stabilité. En haltéro, t'as besoin de générer de la stabilité. Quand tu fais du foot, tu as besoin de générer de l'explosivité. L'haltérophilie te permet de générer de l'explosivité. Sur certaines actions dans le foot, tu as besoin d'être très mobile pour éviter les blessures. L'haltéro te permet de développer cette mobilité-là. Voilà, tu as des transferts, en fait, tu vois, entre les disciplines. Tu vois, par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai fait du badminton, tu vois. Et le badminton, c'est beaucoup d'appui avec un type de travail qu'on pourrait qualifier de pliométrie, tu vois, travail de rebond. Au final, j'avais déjà développé des bons appuis grâce à cette pratique du badminton. Tu vois, donc, et en plus, je pense que quand tu es sur un contexte haut niveau, tu fais déjà énormément de foot, tu fais déjà énormément de rugby selon ta discipline. Donc, je pense que c'est bien des fois pour casser la monotonie, de voir autre chose. Et des fois, tu as des disciplines qui sont un petit peu plus impactantes en termes, tu vois, si on prend par exemple le cas de l'haltérophilie, c'est l'une des disciplines les plus impactantes en termes de développement de l'explosivité. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour être meilleur dans le foot sur ce paramètre-là. puisque le foot, si t'es peut-être pas suffisamment confronté à des tâches qui te demandent d'être très très explosive, avec un volume suffisant pour développer une vraie explosivité, tu vois ce que je veux dire ?
Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il y a des études qui sont conduites par rapport à ça ? Enfin, j'imagine que oui, dans les universités, est-ce que il y a des statistiques qui sont faites sur certains mouvements qui améliorent pour des activités ? Des études ou des... Toi qui as peut-être travaillé là-dedans ou...
Ouais, après, bon, les études, on leur limite notamment en termes de population, tu vois, quand on fait des études sur des méthodes d'entraînement, c'est pas tout le temps sur des athlètes de haut niveau qui sont très spécialisés dans une discipline, donc ouais, la question est difficile à répondre. Après, en revanche, c'est des athlètes qui ont un niveau moyen, bah, quand tu leur fais faire quelque chose qui change, bah, en général, ils progressent, tu vois. Et donc t'as des effets bénéfiques sur la pratique de leur discipline, de même que chez les jeunes, tu vois, tu fais faire de l'haltéro chez des jeunes, tu vas avoir des gains qui vont être énormes sur la détente verticale, tu vas avoir des gains qui vont être aussi importants sur la capacité à sprinter, alors que tu vois l'haltéro c'est une discipline qui est verticale, le sprint c'est quelque chose qui est horizontal. Et tu vois, comme c'est des gens qui sont encore très plastiques, le fait d'avoir une stimulation nerveuse, ça va les impacter. Chez les athlètes de haut niveau, a priori, ouais, il faut être un petit peu plus fin. Et par exemple, si tu veux améliorer la capacité à sprinter, il vaut mieux orienter les aspects musculation dans l'horizontalité, tu vois.
Ouais, et là, on parle uniquement d'amélioration de performance pour être meilleur, mais pas du tout... Enfin, on n'est pas spécialement dans quelque chose de santé ou de longévité jusque-là.
Bah, je pense que l'un des bons moyens de prévenir les blessures, donc de respecter la santé de l'athlète, c'est le rendre performant, tu vois. Tu prends par exemple un joueur de foot, si en termes de conditions physiques, il est en dessous du niveau dans lequel il fait les matchs, bah, il va avoir plus de chances de se blesser que s'il était au niveau physique.
Ouais, mais regarde, tu vois, petite réflexion là, si ce joueur de foot particulier là, on lui augmente sa vitesse, on lui augmente son explosivité, la force de ses muscles au niveau du quadriceps, des ischios, etc. Tu vois, il est vraiment fort, il est puissant. Est-ce que ça met pas plus de risques pour, par exemple, les plateaux tibiaux, les ligaments? Est-ce qu'ils se renforcent en même temps que tous les autres paramètres se renforcent? Et donc, ils deviennent plus solides. Et finalement, l'augmentation des performances n'a pas d'impact sur la structure. Ou alors, il y a une limitation. On va prendre le ligament croisé, par exemple. Parce que le ligament croisé, il va avoir une limitation dans son renforcement. Ce qui fait que tu vas tout renforcer et mettre finalement plus à rude épreuve ce ligament qui peut plus se déchirer à ce moment-là.
Ouais. Bah, justement, tu vois, c'est marrant que tu me parles des ligaments croisés. Et justement, il y avait une étude qui montrait chez des haltérophiles que le fait de faire de l'haltéro, ça avait un impact... Sur l'hypertrophie des ligaments croisés. Après, on peut aussi penser qu'au-delà de l'hypertrophie des ligaments croisés, tu as aussi l'aspect fonctionnel, tu vois, qu'ils sont plus efficaces indépendamment de l'hypertrophie de cette structure-là, quoi. Mais non, après, je pense que peut-être l'extrême, tu vois, lié au problème de sécurité, c'est peut-être ce qu'on a vu avec l'évolution des morphotypes, enfin des physiques en rugby, où on voit que les chocs sont de plus en plus violents. Après, non, par rapport au... Je pense que si on fait bien les choses, si le plan d'entraînement est bien construit, bah, le fait de rendre plus puissant un mec, ouais, il va avoir des freinages plus importants à faire. Donc ouais, si tu l'entraînes pas à freiner, ouais, peut-être que tu vas augmenter le risque. Mais si tu construis bien les choses, si tu penses bien par rapport à tout ce qu'il va faire dans sa pratique, il n'y a pas de problème de le rendre plus performant sur le plan physique, au contraire, quoi.
Ok, bon, c'est quand même très intéressant. Pour revenir sur l'haltérophilie en question, et puis ça permet de faire la transition sur un petit peu le côté santé et blessures, est-ce qu'il y a des blessures type en haltérophilie? Déjà de 1, que toi tu as pu remarquer autour de toi, et ensuite on passera peut-être à des blessures que tu as pu expérimenter de ton côté personnellement.
Ouais, alors en haltéro, une blessure qui est très fréquente, c'est les tendinites au niveau des épaules. Mais je pense que ça pourrait être largement évité par une meilleure réflexion sur la dose d'entraînement. Je voyais souvent ça chez des athlètes débutants bah, qui en fait commençaient trop fort en termes de volume, trop fort en termes de charge, avec des techniques inappropriées et qui, ouais, très très vite avaient mal aux épaules, tu vois. Très vite, il se prenait trop vite au jeu de l'haltéro et trop vite, il voulait faire, s'entraîner beaucoup. Trop vite, il voulait monter en charge et du coup, il développait des pathologies au niveau des épaules. Les gens qui s'entraînent beaucoup peuvent avoir quelque chose qui ressemblerait à des tendinites au niveau du rachis. Mais voilà, c'est encore lié à la charge d'entraînement. Si tu doses bien, si tu alternes bien les fortes charges d'entraînement avec des périodes de récupération, c'est plutôt une pratique qui est très très saine. Et d'ailleurs, quand tu regardes les chiffres en termes de blessures, tu t'aperçois que c'est une des pathologies où déjà tu le blesses le moins, et deuxièmement où quand tu le blesses, ça induit très peu d'indisponibilité par rapport à tes possibilités de t'entraîner.
Donc majoritairement tendinite des épaules, j'imagine peut-être tout ce qui va être supraépineux.
Ouais, c'est ça. Plutôt pour résumer, c'est des blessures qui sont liées à un excès d'entraînement, tu vois.
Ok, justement, c'est intéressant parce qu'ici, dans ce podcast-là, on essaie quand même de parler des blessures. Enfin, on essaie de parler des blessures, bien sûr, mais on essaie aussi de parler de comment éviter les blessures, ou en tout cas diminuer leur apparition et leur handicap une fois qu'elles sont là. Donc, si on pouvait donner un conseil, ça serait peut-être gérer la fréquence, en fait.
Ouais, c'est globalement bien quantifier la charge d'entraînement, quoi, et avoir une logique de progressivité. Tu vois, quand t'es débutant en haltéro, que t'en as jamais fait, tu vois, c'est une connerie de se taper d'entrée 5 séances par semaine. Tu commences par 2 séances bien espacées où tu laisses 2 jours de récupération entre les 2 séances. Tu commences par des séances d'une heure où tu fais des charges légères pour voir la technique. C'est déjà très suffisant. Et après, au fur et à mesure de la saison, tu augmentes ta fréquence d'entraînement, tu augmentes ton volume sur chacune des séances. Mais voilà, il faut vraiment avoir une logique de progressivité. Et ça, je pense que c'est ce qui manque. Y compris chez les gens qui commencent la muscu d'entrée, ils se mettent à se taper 5 séances d'entraînement, non. Et il faut bien avoir conscience que quand tu débutes, la moindre chose que tu vas faire, ça va te faire progresser par rapport à ce que tu es déjà, tu vois. Donc tu n'as pas forcément besoin de te taper 5 séances d'entraînement.
Et on peut coupler ça avec de la musculation classique ?
Ouais, complètement, ouais. C'est ce que d'ailleurs je recommande, tu vois, au début, je pense. Tu vois, c'est une pratique qui est pas très très ludique, l'haltéro, qui peut vite devenir monotone si t'as pas beaucoup d'imagination. Donc ouais, ça peut être pas mal de varier, pas uniquement avec de la muscu, mais avec couplé avec une autre discipline.
Et alors, je suis curieux parce qu'on manipule quand même des charges lourdes avec des positions qui sont en squat, beaucoup au-dessus de la tête ou la barre sur les épaules, mais en tout cas, il y a cet aspect de compression de la colonne. Tu m'as dit que l'essentiel était les blessures d'épaule. On ne retrouve pas de problème au niveau des genoux et encore moins au niveau de la colonne vertébrale, tout ce qui est disque, les disques, hernie discale, ces choses-là.
Alors, au genou et dans le rachis, t'en as, mais c'est comme je te disais, c'est excès d'entraînement. C'est des pathologies type tendinite. Après, par rapport aux hernies discales, si ça arrive, et c'est lié, je pense, pour connaître des profils d'athlètes qui se sont blessés sur des hernies discales, c'est des gens qui ne se sont pas suffisamment écoutés quand il y avait les premiers signaux d'alerte, tu vois. J'ai mal au dos, mais je vais quand même continuer à m'entraîner, je vais quand même faire les compétitions, je vais éventuellement prendre des médicaments qui vont me faire oublier la douleur. Donc tu vois, c'est des gens, je pense, qui ne s'écoutent pas.
Donc le cliché de l'hernie discale aiguë, comme on appelle là, d'un coup qui se manifeste, on va moins le voir en haltérophilie peut-être qu'en salle de sport classique où il y en a qui vont faire du soulevé de terre d'oron et tout d'un coup, clac, t'as l'hernie qui pète derrière. Ça, tu le retrouves pas en haltéro.
Ouais, tout dépend de ton encadrement. Je vais te dire, si tu commences à prendre ta barre, à faire n'importe quoi, à charger, tu vas avoir autant de risques. Mais en général, en haltérophilie, c'est plutôt bien encadré. Et t'as des gens qui sont là pour te prescrire les bonnes postures, quoi.
Est-ce que toi, t'as expérimenté ces blessures-là dont on parle justement ? T'as déjà eu des tendinites aux épaules ?
Ouais, j'ai eu quelques petites alertes. Après, je pense que mon cursus STAPS et ma sensibilité liée à la charge d'entraînement, mais aussi ma sensibilité au football où au final on s'entraîne pas beaucoup et on est plutôt précautionneux par rapport aux soins de son corps, m'a permis de limiter la fréquence des apparitions et à chaque fois la durée des douleurs, quoi.
Ok, donc t'as jamais eu de lésion, on va dire.
Non, mais j'avoue, j'ai peut-être eu de la chance. Je m'étais fait mal une fois au poignet, mais sur une connerie, tu vois. J'étais sur une barre très très lourde en front squat et il y a un con qui a éteint la lumière dans la salle de musculation et en l'occurrence, j'ai perdu quelques repères et ma proprioception n'a peut-être pas suffi sur la charge lourde et la barre est restée dans ma main gauche et j'ai lâché de la main droite et donc, bref, j'ai eu un petit problème au poignet, on va dire.
Ouais, je crois que lui, il avait pas envie de te voir réussir en compétition. C'était volontaire, c'était une blague ou c'est juste qu'il
Non,
t'avait pas vu?
dans la salle où j'étais, ils avaient mis l'interrupteur de la lumière juste au-dessus ou au-dessous, je sais plus, de l'interrupteur pour ouvrir la porte, tu vois. Donc ça devait arriver un jour, on va dire.
Voilà, ça est arrivé à ton poignet, mais enfin, tant mieux s'il a rien eu de
Ouais.
grave.
Non,
Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Quelles précautions tu prends en dehors d'un bon échauffement, d'un bon entraînement, etc., d'une bonne programmation d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais en précaution pour te maintenir le plus en bonne santé et sans douleur?
Alors, bon, j'essaye déjà de manger correctement. Bon, je pense qu'on va pas forcément développer et d'avoir un rythme de vie correct, même si je t'avoue que c'est un petit peu difficile avec toutes les choses que je fais. Essayer d'avoir le sommeil de la meilleure qualité possible. J'essaye de rester le plus actif possible, d'être le moins assis possible, tu vois, parce que j'ai quand même un travail avec ce que je fais à la fac où je suis relativement assis. J'ai pas mal de voitures pour aller à l'Eje Cap Ferret pour aller faire l'entraînement de préparation physique. Donc ouais, j'essaye tant bien que mal de diminuer le temps assis et j'essaye voilà après chaque fois que c'est possible, même si je peux plus faire comme avant, d'aller m'entraîner quoi.
Et c'est quoi ton rapport avec la médecine, avec peut-être la kiné, avec l'ostéopathie, avec qu'est-ce qu'on a d'autre, la naturo peut-être? Est-ce que tu as une expérience toi par rapport à ces disciplines de santé?
Alors, je t'avoue que je sous-consomme complètement la médecine par
Classique?
manque, ouais, la médecine classique, mais par manque de temps. Tu vois, la dernière fois j'ai pris un gros coup au foot et pas du tout eu le temps d'aller consulter le médecin, d'aller faire des examens. Voilà. Après, je crois néanmoins dans les bénéfices de ce que peuvent apporter des ostéopathes, par exemple. Tu vois, j'ai été voir ton ancienne compagnon de promo. J'étais voir Maëlys à Dax
Ah,
pour
oui.
voilà.
Oui, bah, alors je sais pas si elle écoutera, mais si elle écoute, bah, on lui passe le bonjour. Je crois qu'elle est toujours à Dax.
Elle est à Dax, je te confirme. Donc ouais, non, j'y crois et chaque fois que j'y vais, ça me fait du bien et je pense que c'est des corps de métier qui ont un vrai intérêt en termes de santé, mais également en termes de performance. Dans mon staff à l'Eje Cap Ferret, il y a un kiné qui des fois nous permet, je pense, de prévenir des blessures ou nous permet que des joueurs s'entraînent alors que s'il n'y avait pas le petit massage, qui ne s'entraînerait pas ou qui jouerait pas, tu vois.
Ouais, ben je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis, évidemment. Mais il me semble que je t'avais vu une fois aussi lorsque j'étais en France. Je t'avais vu une fois en consultation aussi.
C'est ça, c'est vrai une fois, ouais.
Ouais. Et ben, si je me souviens, sur ta morphologie, je sais plus, on avait dû parler un peu d'haltéro, un peu de sport, mais t'avais vraiment une morphologie, moi, qui m'avait appelé sur, ben, comme on a parlé au début, là, buste long, segment court. Enfin
Encore,
bref.
ouais.
Une petite question technique. On dit que l'haltérophilie, enfin on dit, tu l'as dit et je suis assez d'accord aussi, que ça améliore donc la santé, ça améliore la posture. Comment en fait, dans quel cadre la pratique de l'haltérophilie pourrait améliorer la posture de quelqu'un?
Alors, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Un mal générationnel, c'est le fait qu'on est beaucoup assis, souvent les épaules vers l'avant. Et donc, l'ensemble du rachis a tendance à s'adapter aux contraintes qu'on lui impose, à savoir la posture assise. Donc, tu vois, le fait de faire de l'haltérophilie, la posture de base, c'est déjà générer une belle posture sur le rachis, donc être capable de s'ouvrir, tu vois, pour être solide au niveau de la cage thoracique et au niveau du bas du dos. Ben, pour faire un bloc vraiment vraiment dur, pour pouvoir ensuite lever la barre principalement avec les jambes. Bon, il y en a qui tirent beaucoup en dos aussi, mais principalement en générant au moins sur la première partie du mouvement, la puissance avec les membres inférieurs, tel que tu pourrais le faire quand tu ramasses une caisse ou ton pack d'eau quand tu vas faire tes courses, tu vois. Donc ouais, c'est restaurer de la mobilité au niveau. au niveau du raki, premièrement. Et c'est restaurer également de l'activation nerveuse sur ces muscles qui ne sont plus activés sur la posture assise, quoi.
Ok, ouais, c'est intéressant. C'est, tu augmentes l'automatisme, ou en tout cas la tonicité de base, peut-être, des muscles qui favorisent l'ouverture de la cage thoracique. Moi, je parle pas mal de ça dans mes consultations aussi. J'essaie d'expliquer qu'il faut mieux se tenir, essayer de renforcer certains muscles, et puis ça va permettre de renforcer un peu comme le tonus de base, qui peut tout le temps être davantage contracté que les muscles de devant. Enfin, on va essayer de garder d'avoir l'équilibre le plus équilibré. Avant de passer sur ta thèse, pour parler un petit peu de ce que tu as apporté là, de ce que tu as recherché sur la DHE1, on va y revenir, mais juste, évidemment, une petite question qui me fait rire, c'est quoi ton avis sur le CrossFit ? Parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements d'haltéro, et toi, tu es un spécialiste de l'haltéro, et qu'est-ce que tu en penses de cette discipline ?
Ben, je pense que ça peut être une très très bonne discipline, déjà, si c'est bien encadré. Je t'avoue, j'ai côtoyé beaucoup de crossfitters et tous honnêtement, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui ont la volonté de se former, et je pense que la méthodologie crossfit fait qu'on peut bien se former en crossfit. Après, le problème, c'est la manière dont les pratiquants débutants s'approprient la méthode, tu vois. Ils veulent au final commencer parfois trop vite, trop fort, avec beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de charges, et c'est là où ça devient dangereux. En fait, c'est pas un problème de méthode, si tu veux, c'est plus un problème de mentalité. Quand après, tu vois, là, je trouve très bien, je fréquente une box de CrossFit à Bordeaux, et je trouve que l'ambiance qui y règne, eh bien, est très très motivante. Le fait de travailler en groupe, c'est motivant. Le fait d'avoir des codes qui sont propres au CrossFit, tu vois, le fait de se checker, de s'encourager les uns les autres, c'est quelque chose qui permet aux gens de pratiquer avec un petit peu plus d'envie que s'ils ne le faisaient, s'ils le faisaient tout seuls, tu vois. Donc, je pense que ouais, ça a des bons côtés. Après, la variété dans les mouvements, je trouve que c'est également une très bonne chose, parce que ça améliore, ça développe des compétences physiques. Tu vois, tu as parlé d'haltéro, il y a de la gym, il y a des mouvements, il y a de la course, il y a des mouvements de tirer, de pousser, être capable d'utiliser son corps, être capable d'utiliser différents engins, des pneus, des kettlebells, des haltères, enfin, ouais, être capable de monter à la corde, il y a plein de choses, tu vois. Donc, en termes de développement de compétences, en termes de gestion de différents objets, je trouve ça très très bien. Après, voilà. Il faut être bien encadré, il faut des fois passer les étapes de débutant avant de devenir expert. Et malheureusement, des fois, ils veulent devenir expert sans avoir franchi les étapes de débutant. Et je pense que c'est là où ça devient dangereux, quoi.
Parfait. Pour passer sur ta thèse que tu as soutenue donc, il y a quelques années, là, il n'y a pas si longtemps, il me semble, le lien entre la DHEA et la performance sportive.
Ouais.
Alors déjà, c'est quoi la DHEA ?
Alors, la DHA, ça veut dire déhydroépiandrostérone. C'est une prohormone stéroïde, une molécule qui est actuellement présente sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, dans la mesure où elle peut se transformer en testostérone. Ça a été clairement montré que la testostérone a des effets positifs sur le gain de masse musculaire et impacte du coup positif. Les performances, notamment en force. D'où le fait que l'Agence mondiale antidopage a financé une partie de ma thèse pour avoir des informations sur l'effet direct de la DHA.
Alors, quels ont été tes résultats par rapport à ça et comment tu en as fait pour arriver à ces conclusions ?
Alors, si tu veux, donc nous, on a utilisé une dose de 100 mg par jour pendant 4 semaines chez des jeunes filles, donc c'était des jeunes qui avaient environ 20 ans et des jeunes hommes qui s'entraînaient régulièrement, mais qui n'étaient pas des sportifs de haut niveau pour toutes les raisons éthiques que tu peux imaginer. Donc, il n'y a pas eu d'effet sur les performances, il n'y a pas eu d'effet sur la masse musculaire. Mais que c'est par rapport au fait qu'il y ait eu une seule dose par jour. Donc, très clairement, en fait, il y a une différence entre les effets espérés chez les hommes et chez les femmes. C'est les hommes, ils ont des taux de testostérone qui sont très importants par rapport aux femmes. Donc, on n'espérait pas, et ça avait été déjà montré dans la littérature, de grosses augmentations de la testostérone chez les hommes. En gros, on a eu une augmentation, ce qui faisait que les taux chez les hommes restaient physiologiquement normaux, alors que chez les femmes, on a eu une augmentation de, ça a été multiplié par 10. Donc, les femmes passaient, tu vois, dans des taux supra-physiologiques. Donc, on pensait avoir potentiellement, du fait de cette augmentation de la testostérone, des effets sur la masse musculaire et des effets, du coup, sur les performances en force, ce qui n'a pas été le cas. Mais si on s'est ensuite intéressé à la pharmacocinétique de la DHEA et de la testostérone, et on s'est aperçu en fait que a priori la DHEA était convertie très rapidement en testostérone avec un pic 2 heures après l'administration, et après les taux de testostérone redescendaient assez rapidement dans la journée, ce qui fait qu'en fait les femmes étaient exposées à des taux supraphysiologiques sur un temps trop court pour avoir un effet anabolisant, pour avoir un effet sur la masse musculaire.
Ok, donc c'est pas l'hormone de demain pour devenir super balèze et super fort.
Ouais, en fait, ce que c'est la conclusion de ma thèse, c'est que là, on a des conclusions avec une modalité de prise, tu vois, à savoir une seule prise par jour d'une dose de 100 mg. Mais tu vois, probablement qu'on aurait des effets différents si on prenait 2, voire 3, voire 4 prises par jour de 50 ou 100 mg, tu vois. Tu vois, là, quand tu prends la molécule, tu as un pic de testostérone 2 heures après, et après, ça diminue pour revenir vers des taux normaux. Donc, en fait, quand tu prends une seule dose par jour, les taux de testostérone sont élevés, mais que sur un temps très très court. Après, ça diminue et tu reviens sur des taux qui sont physiologiques.
Et à ce moment-là, est-ce que ça prendrait du sens d'avoir une dose de DHEA quelques heures avant l'entraînement, ou essayer de corréler le pic hormonal de testo au moment où tu vas faire ton entraînement pour peut-être exploser tes performances et faire de la surcompensation à ce niveau-là?
Alors pour être bien clair, la prise de DHEA, je la recommande pas, dans la mesure où c'est une substance qui est classée comme dopante. Ça induira, si jamais ils sont contrôlés, ça induira un contrôle positif. Donc voilà, je la recommande absolument pas. Après, dans une logique de santé, ça peut être un petit peu différent, surtout pour les populations vieillissantes. Ouais, y a quelques études, notamment chez les femmes, qui montrent que ça pourrait avoir un bénéfice de faire entraînement plus DHEA.
Mais aujourd'hui, la DHEA, donc, elle est commercialisée, ou elle est utilisée comme médicament, ou juste c'est en phase de test? C'est quoi un petit peu sa place à la DHEA?
Ah, c'est très très particulier, parce que si tu prends le cas des États-Unis, c'est vendu en tant que complément alimentaire. Donc tu peux la retrouver très facilement en magasin, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en France, c'est sur prescription médicale. Donc, tu vas avoir des gens qui ont des taux très faibles de DHEA qui vont pouvoir se faire prescrire de la DHEA. Mais c'est vraiment délivrance en pharmacie liée à l'analyse de taux de DHEA, et surtout sur prescription médicale, quoi.
Et dans quel cas quelqu'un pourrait se faire prescrire ça?
Bah, c'est quand les gens, ils ont des taux très, très réduits de DHEA. Tu vois, par exemple, avec le vieillissement, la plupart des gens ont une baisse assez importante des taux de DHEA. En gros, tu as ton pic qui est entre 20 et 30 ans, pour faire large. Et au fur et à mesure, ensuite, que tu vieillis, tes taux diminuent pour, en gros, avoir plus que 5% quand tu arrives à 90 ans.
Et ça me fait penser finalement à la TRT d'une certaine manière.
Les traitements hormonaux substitutifs, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. À partir d'un certain âge, notamment aux États-Unis, peut-être moins en France, tu peux te faire prescrire de la testostérone pour compenser en fait ta testostérone qui aurait diminué à partir d'un tel âge. Ça me fait penser à ça finalement, la prise de DHEA à partir d'un certain âge, non?
Ouais, c'est un peu le même principe, c'est pour compenser la baisse naturelle, tu vois. T'as même des chercheurs qui ont dit comme la DHEA diminue avec l'âge, et que inversement les pathologies, le diabète, l'hypertension, etc., augmentent. Et il y en a, ils ont fait un gros raccourci en disant mais le fait que la DHEA diminue qui explique le fait que les maladies augmentent, tu vois. Ça a été un gros argument de vente de la DHEA, notamment aux États-Unis.
Mais si la DHEA se transforme en testostérone derrière, pourquoi pas prendre directement de la testostérone en fait?
Pourquoi pas prendre de la testostérone directement? Mais ça, c'est une bonne question. Après, il est probable que la DHEA puisse avoir une action directe, indépendamment de sa conversion en testostérone ou en œstrogène. tu vois, mais honnêtement, les recherches sur la DHA, bon, y en a quand même un certain nombre, mais elles ont plutôt été étudiées au regard de la conversion en testostérone ou en estrogène qu'au regard de l'action directe de la DHA sans conversion, tu vois.
Ok.
La conversion, elle est difficile de contrôler. Donc, tu vois, ça serait un peu une molécule smartphone, mais avec des difficultés à la contrôler en fonction de tes enzymes qui vont favoriser plutôt la synthèse de testo ou plutôt la synthèse d'œstrogène, tu vois.
Ok, donc encore pas mal de recherches à faire dessus, beaucoup de rôles qu'on ne connaît pas, donc j'imagine.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de rôles qu'on ne connaît pas, notamment les rôles directs de la DHA, quoi.
Bon, eh ben écoute, c'est très intéressant. On essaiera de suivre l'évolution de la DHA. C'est super. Peut-être que ça sera le prochain SARMS. Je sais pas si tu as vu un petit peu ça, les SARMS là qui viennent en force ces dernières années, ouais. Dont la promesse formidable serait tous les avantages de la testostérone, en tout cas des anabolisants sans aucun inconvénient. En fait, c'est un peu ça le truc.
Par rapport à la DHA, quelque chose qui pourrait t'intéresser certaines de tes auditrices, ça a été testé en addition aux pilules contraceptives. Ça a été testé dans les premières études aux Pays-Bas, parce qu'en fait, on s'est aperçu, et tu le sais sûrement, que chez les filles qui prennent la pilule contraceptive, ça induit une diminution des taux de testostérone, avec tous les problèmes au niveau psychologique que ça peut induire et au niveau physiologique. Et en fait, la DHA additionnée à la pilule contraceptive, ça permettrait de maintenir ou de restaurer les taux de testostérone à des taux normaux, tu vois. Et ça pourrait éventuellement, si on extrapole un petit peu, éviter certains effets indésirables de la pilule contraceptive.
Comme des effets cardiovasculaires, par exemple ?
Ouais, plutôt sur les aspects psychologiques, mais ouais,
psychologique,
potentiellement, et ouais, sur les aspects cardiovasculaires aussi, ouais, mais aussi sur l'aspect masse musculaire, sur l'humeur, etc., etc., quoi.
Intéressant. Eh ben, s'il y a des filles qui écoutent le podcast, voilà, une piste à creuser peut-être. Je vous laisse aller, aller rechercher tout ça, aller taper sur Google si ça vous intéresse.
Ouais, ça, c'est sûrement la pilule de la prochaine génération de pilules.
La pilule de demain, puis faudrait pas que je mette ça comme titre à l'épisode. Découvrez la pilule de demain, ça sera assez réducteur par rapport à tout ce qu'on a parlé.
La vraie pilule de demain, ça serait être capable de répandre l'haltérophilie dans le milieu de la préparation physique et dans le milieu de la santé, parce que je t'en ai pas parlé, mais
vas-y.
Quand j'étais à Orléans, il y avait un cours qui s'appelait Haltérosanté, qui existe toujours. Donc c'est une dame qui s'appelle Christine Bourges qui avait mis ça en place avec un ostéopathe et une autre de ses confrères. Et donc l'idée, si tu veux, c'était de proposer un outil santé à destination des femmes qui avaient de l'ostéoporose par le fait que l'haltéro, t'as un stress mécanique lié à la charge, un stress mécanique lié à l'impact. Tu vois, puisque tu décales les pieds, tu réceptionnes avec une charge, c'était un bon stress pour l'os, tu vois. Donc c'était une discipline de choix pour lutter contre les problèmes d'ostéoporose. Après, ça a été décliné sur globalement une méthode pour lutter contre le bien vieillir. Tu vois, à la base, la DHEA, c'était une substance qui était appelée l'hormone de jouvence, tu vois. Et moi, j'aimais bien dire que je pense qu'en fait, la vraie hormone de jouvence, ça serait pratiquer de l'haltérophilie pour bien vieillir.
Ok, ouais, c'est super intéressant et ça paraît très cohérent parce que tu mets une contrainte sur un os, sur un muscle, en fait, il va s'adapter. Donc, plus tu mets une contrainte sur un os, t'imagines que sa densité osseuse elle va augmenter, elle va se renforcer. Il n'y a qu'à voir, hein, tu restes à l'hôpital allongé pendant un certain nombre de jours, ta densité osseuse diminue largement parce que l'os n'a plus besoin d'être aussi dur puisque finalement il reste allongé.
Ouais, c'est ça. Tout ton organisme s'adapte aux contraintes que tu lui mets, certaines limites, bien évidemment. Si tu mets une contrainte qui est trop importante, à un moment donné, il y a rupture. Ouais, mais si on dit que c'est toujours pareil, il y a adaptation, quoi.
Bon, c'est une belle conclusion pour cet épisode. Pour terminer, j'ai pour habitude de poser trois petites questions de fin. Donc la première, c'est quel est le meilleur conseil que tu donnerais, toi, à quelqu'un qui commence l'haltérophilie, là, pour le coup, et qui n'y connaît rien ?
Alors, déjà, c'est de ne pas commencer tout seul. C'est de bien s'assurer que dans le club où il va aller ou dans la box de CrossFit dans laquelle il va aller, il va être bien encadré. Parce que ça va être déterminant pour son apprentissage et ça va être déterminant pour sa santé et s'il veut espérer faire des performances pour ses performances à long terme. Voilà, donc je dirais vérifier l'encadrement. Et surtout, pas vouloir commencer tout seul avec des tutos YouTube, parce que c'est vraiment l'haltéro, c'est vraiment de la sensation. Et c'est sur le moment où en étant bien corrigé, qu'on va bien emmagasiner le mouvement, quoi.
Deuxième petite question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans tes jeunes années peut-être, ou qu'il est encore aujourd'hui?
Ouais, j'ai deux personnes qui m'ont, enfin plusieurs personnes qui m'ont vraiment servi dans ma formation d'entraîneur. C'est Benoît et Bernard Michelena avec qui je travaille. Enfin Benoît, qui est le directeur du Pôle Espoir Football avec lequel je travaille toujours. Bernard, c'est son père, c'était l'ancien préparateur physique des Girondins de Bordeaux quand les Girondins de Bordeaux ont connu leur grande gloire avec entre autres Aimé Jacquet comme coach. Après, ouais, j'ai eu des très bons profs à la fac qui m'ont permis de développer mes compétences et surtout de bien comprendre l'humain sur le plan de la physio et sur le plan de la psychologie, on va dire.
Et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu recommandes, qu'il soit dans le milieu du sport, ou pas forcément?
Ouais, j'ai bien aimé La semaine de 4 heures, je sais pas si tu l'as lu.
De Tim Ferriss, oui.
Ouais, de Tim Ferriss, où ouais, il parle de tout un tas de choses liées à l'organisation au final, tu vois, pour économiser du temps. Mais je pense que quand tu es bien organisé dans ta structuration de l'entraînement, tu t'économises et au final, tu deviens plus performant, quoi.
Un bon livre sur la productivité, effectivement, tu peux faire le parallèle avec pas que la productivité au travail, mais la productivité dans la vie de tous les jours, dans ton entraînement, dans ton quotidien, ouais. Est-ce que si on veut te suivre ou te contacter, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web?
Bah, sur Twitter, sur Twitter.
Ok, très bien. Quel est ton... tu donneras les liens, je les mettrai dans les notes, dans la description de l'épisode.
Je crois que c'est Nico Gravis, un truc comme ça. Je te donnerai le lien. Et après sur LinkedIn, en tapant Nicolas Gravis.
LinkedIn, Nicolas Gravis, ok, si on veut te poser des questions, on a qu'à aller là-dessus. On invite les auditeurs à te poser des questions s'ils en ont. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou un dernier message que tu voudrais faire passer?
C'est très bien ce que tu fais et j'espère que tu vas pouvoir continuer à développer cette source d'information pour permettre à des gens d'avoir éventuellement des réponses aux questions qui se posent dans le quotidien.
Ouais, alors c'est un petit peu coupé, mais je pense qu'on a compris, en tout cas moi j'ai compris l'essentiel. Effectivement, j'essaie de m'entourer de personnes compétentes pour aborder différents sujets autour du sport, de l'entraînement, de la santé. Et je crois que cet épisode va particulièrement bien servir le podcast, puisque je l'ai trouvé très intéressant. Je les trouve toujours très intéressants, évidemment. Mais en tout cas, je te remercie d'être passé sur le podcast, et puis je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
Ok, ça roule Jérôme. À bientôt poulet.
Bravo si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin et que vous m'avez dans les oreilles actuellement. Je vous remercie aussi d'être fidèle au poste. Merci à Nicolas Gravis d'avoir partagé ses connaissances et répondu à mes questions. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec lui. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en laissant une évaluation 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple. Je dis toujours application podcast, mais peut-être que chez certains, c'est sur iTunes. Vous allez simplement sur le podcast Biomécanique, vous laisser un petit commentaire, vous donner votre avis concernant le podcast, ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Ça permet de m'encourager à continuer à faire ces épisodes, essayer de vous fournir de plus en plus de contenu, d'informations intéressantes avec des professionnels, avec des spécialistes, avec des athlètes, de partager un petit peu des parcours. Plus vous serez nombreux à me donner des évaluations, à me faire part de vos retours concernant le podcast, plus je pourrai aller questionner, interviewer et aller chercher des invités de plus en plus peut-être prestigieux, moins accessibles, plus connus, peut-être sur des sujets différents et tout aussi intéressants. Donc n'hésitez pas à soutenir le podcast juste de cette façon, ça prend quelques minutes. Si vous n'utilisez pas l'iPhone pour écouter ce podcast, vous pouvez, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a un iPhone, juste emprunter lui 5 secondes, peut-être un petit peu plus que 5 secondes, pour laisser une évaluation et un commentaire sur l'application. Ou alors inscrivez-vous à la lettre, vous pourrez directement me répondre au mail que j'envoie et si vous souhaitez me faire part de quelques réflexions ou de quelques idées pour de futurs épisodes. ou simplement laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast. Voilà, je vous embête pas plus. Je rappelle peut-être une dernière fois, vous avez le lien de la lettre biomécanique. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Vous regardez dans les notes de l'épisode, vous retrouverez le lien pour accéder à la lettre biomécanique et également toutes les références mentionnées au cours du podcast. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast et je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.